reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo.
Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
h 02 à la pendule, un petit peu en avance de la plus rebelle des radios. Il est l'heure, comme tous les jeudis de 19 à 20h, du Canu Info du jeudi, si bien nommé. L'émission étant bien sûr toujours animée par Delphine.
Salut, bonsoir à tous et à toutes.
Voilà, et par Laurent, et c'est moi qui vais commencer en vous disant ce que je ne devrais pas dire. Donc je ne devrais pas dire ça, mais j'ai trouvé des critiques quand même. J'ai trouvé les critiques des journalistes et des politiques envers François Hollande cette semaine complètement déplacées. Bon, bien évidemment, je ne suis pas devenu socialiste ni hollandophile, mais je trouve que plutôt que critiquer sa politique, on a eu droit donc un flot de critiques sur sa volonté de transparence qui me semble complètement dépassé. Bref, comme vous en êtes sûrement rendu compte cette semaine, nous avons beaucoup entendu parler de ce livre de confidences de François Hollande et de nombreuses critiques se sont donc élevées pour dire que François Hollande rabaissait l'institution présidentielle. Je ne partage pas forcément ce point de vue-là, puisque cette vision qu'on pourrait considérer comme monarcho-républicaine, qui laisse entendre que le président n'est pas une personne comme les autres, en tout cas, il ne l'est plus une fois qu'il a accédé à cette fonction. Cette idée-là reste, à mon avis, foncièrement antidémocratique, même si c'est bien implanté dans la tête des politiques, des journalistes et d'une partie de la population. Dans les faits, être président de la République ne devrait être qu'une fonction, qu'un mandat et rien d'autre. Mais la France, contrairement à certaines démocraties du nord de l'Europe, a gardé cette image très monarchique de l'homme, alors pas encore de la femme, mais si c'était une femme, ça serait bien évidemment malheureusement pareil, de l'homme donc qui devient quasiment un dieu quand il accède au pouvoir suprême, tel Louis XIV ou Napoléon en d'autres temps totalitaires. Il semble que l'idéal révolutionnaire soit bien oublié dans cette glorification anormale et excessive de la fonction présidentielle. Alors oui, je ne devrais pas dire ça, mais Hollande, comme Chirac, Sarko, Giscard, Mitterrand et les autres sont des hommes comme vous et moi. Et je me suis même laissé dire qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils pissent, qu'ils font caca comme tout un chacun. Et finalement, leur fonction n'est pas plus glorieuse que celle de la personne qui ramasse vos et mes poubelles, fait pousser vos et mes légumes, imprime mon canard enchaîné, votre canard enchaîné et qui distribue mon courrier. Seule la fonction est différente. Voilà, moi aussi, j'ai rabaissé la fonction présidentielle et j'en suis fier. Bon, je ne devrais pas dire ça non plus. Mais comme les policiers en grève, je trouve que la justice est trop laxiste. Oh mince, je ne devrais pas dire ça à l'antenne de Radio Canus, c'est pas possible. Mais je la trouve trop laxiste seulement pour les crimes de la police. Il ne faut pas exagérer non plus. Depuis quelques jours, vous avez remarqué que les policiers manifestent car, soi-disant, il manquerait de moyens, alors qu'on leur en donne de plus en plus, et que la justice serait donc trop clémente. Effectivement, pour expliciter mon propos, je vous propose de partager quelques exemples de justice trop clémente. Le 6 décembre 1986, à Paris, Malik Oussekine était tué par deux flics, dits des voltigeurs, inventés par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Pasqua et son ami Pendreau, lors d'une manifestation, enfin en marge, parce qu'il n'était même pas dans la manifestation étudiante. Les deux policiers assassins seront condamnés à des peines de prison avec sursis, juste pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, comme s'il n'avait pas voulu le tuer en le tabassant à mort. Le 6 avril 93, l'affaire Macomé M. Bovolé, donc un Zaïrois de 17 ans, il est abattu d'une balle dans l'œil, tirée à bout portant lors de sa garde à vue pour un vol de cigarettes. Donc la peine de mort appliquée ce 6 avril 1993 directement par l'inspecteur Pascal Compin. Alors là, c'est difficile de pas qualifier ça pour meurtre, mais on va le condamner le moins possible. Il va donc prendre 8 ans de prison. Le 9 avril 2008 à Grasse, Abdelhakim Hajimi meurt lors d'une interpellation. Les policiers sont condamnés à 18 et 24 mois de prison avec sursis, bien évidemment. Le 24 octobre 2014... l'émission en parlait juste avant, à Gaillac, Rémi Fraisse est tué par une grenade offensive pendant une manifestation contre le barrage de Sivens. Le flic meurtrier est toujours libre aujourd'hui. Et la dernière en date, Adama Traoré, jeune homme de 24 ans, mort lors de son arrestation par les gendarmes le 19 juillet 2016 dans des circonstances toujours pas vraiment élucidées. On notera aucune condamnation, aucune poursuite contre les policiers qui ont fait mourir Adama Traoré. Oui, donc, je ne devrais pas dire ça, mais je suis d'accord avec les policiers. Quelquefois, la justice est trop clémente pour les crimes commis par les policiers. On notera d'ailleurs la réaction très discriminante de l'État français qui laisse les manifs illégales de flics avoir lieu, alors qu'en général, il interdit et matraque nos manifs, même quand elles sont légales. Je ne devrais pas dire ça, donc, mais qu'attend donc l'État pour mettre les flics qui font ces manifs illégales en taule ? Bon, c'est un autre sujet, là aussi je ne devrais pas dire ça, mais je me suis réjoui de l'éjection de Cécile Duflo de la primaire des écolos. Oui, c'est mal de se réjouir du malheur des autres, mais n'empêche que je l'ai fait, et j'assume totalement. Elle laisse donc la place à des personnes qui ont l'air quand même d'être un peu plus dans l'action écolo que dans la manœuvre politicienne dont elle avait le secret et qui dessert l'écologie politique. Donc voilà, grâce à elle et grâce à ses amis, l'énergie politique est moribonde. On souhaite à cette écologie politique de rebondir, peut-être grâce à un ou une élue qui sortira de ce parti écolo. Voilà, je ne devrais pas dire ça, mais le monde marche à l'envers. L'actualité du jour va une nouvelle fois vous le prouver, puisque nous allons parler de choses renversantes et qui ne vont pas dans le bon sens, dans l'amélioration de la vie de tous les jours. On va parler un peu de Thaïlande, on va parler du Moyen-Orient, on va parler, comme d'habitude, des profiteurs, c'est-à-dire des capitalistes qui abusent de nous et de vous, des religions, du racisme, des droites extrêmes ou de l'extrême droite, et puis de la chasse qui attaque nos amis les bêtes. Enfin voilà, de pas mal de choses dans ce Canu Info, et nous allons donc commencer par la Thaïlande.
Oui, alors vous avez certainement entendu, mais le roi est mort en Thaïlande, c'était jeudi dernier, il avait 88 ans. Vous savez que le monarque a un statut de demi-dieu en Thaïlande et que surtout il est protégé, surprotégé par cette loi de lèse-majesté qui empêche quiconque de faire la moindre petite réflexion. Alors depuis l'arrivée de la junte au pouvoir en 2014 avec un coup d'État, les poursuites se sont multipliées, les sentences se sont largement alourdies à cause de cette loi de lèse-majesté. Et puis pour en ajouter encore un petit peu, la junte militaire au pouvoir a appelé mardi le peuple à sanctionner socialement ceux qui critiqueraient la monarchie en cette période de deuil. Alors sanctionner socialement, ça donne quoi ? Bah ça donne des trucs très sympathiques dont nous allons reparler. Mais alors il faut savoir que donc on est dans une période de deuil et tout est passé en noir et blanc en Thaïlande. Les journaux, les sites internet, les commerces, tout est passé en noir. Les espaces publicitaires ne sont plus des espaces publicitaires, mais ce sont des espaces d'hommage au roi défunt. Alors la période de deuil national est censée durer un an. Ça va être difficile si ça continue dans ces conditions, puisque plusieurs agressions ont déjà été recensées ces derniers jours. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a des espèces de milices, des groupes ultra royalistes, comme on pourrait dire, comme dans le football, qui sont fait une spécialité de dénoncer à la police les internautes, par exemple, qui ne seraient pas tout à fait des personnes loyales à la monarchie, mais c'est aussi des groupes qui appellent à les tabasser, hein, les gens dans la rue. Et alors, il faut savoir qu'il y a un phénomène particulier, c'est que les gens doivent s'habiller en noir, par respect. Donc si Laurent, tu as le malheur de sortir avec un autre t-shirt, oui, tu es en noir aujourd'hui, c'est bien. Voilà. Eh ben, tu serais embêté et si tu vivrais la même situation que certains et certaines, c'est-à-dire tu te ferais peut-être tabasser, harceler jusqu'à chez toi, ta famille serait aussi embêtée. Il y a eu des vidéos hein, qui tournent et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi du coup dans les médias occidentaux. On voit des hommes et des femmes de tout âge se faire encercler par les foules. On voit la police les obliger à se mettre à genoux et à retirer leurs propos. Parfois, on ne sait même pas ce qu'il y a pu se dire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que soit les médias ils sont à la botte de la junte, donc des élites en place, soit alors de toute façon personne n'ose rien se dire, puisque si jamais vous rapportez des propos qui agresseraient ou qui seraient injurieux envers la monarchie, bah vous risquez vous-même en tant que journaliste, en tant que journal, en tant que média, une certaine répression. Donc bah tout le monde ferme sa tronche, hein, c'est assez simple. Alors il faut savoir que sur les télévisions il y a des programmes en boucle, hein, hommage au roi, avec plein de sujets d'archives, enfin tout ça est mis très en valeur. Mais bon, on sent quand même qu'il y a un faiblissement, mais il faut savoir que c'est quand même un pays à touristes, la Thaïlande. Donc le lendemain de l'annonce de la mort du roi, les restaurants, les bars ont pu ouvrir. Bah oui, mais voilà, le tourisme, c'est quand même une manne financière importante. Il faut quand même cacher ça aussi hein, aux touristes. Hein. Il y a beaucoup de Français hein, qui partent en Thaïlande et je pense que beaucoup d'entre nous se soucient pas bien en fait de ce qui se passe là-bas et de la situation politique. Il faut savoir qu'il y a une grande crise hein, économique, la société est extrêmement partagée. Je vous parlais de cette élite proche des militaires, c'est une élite conservatrice qui tient le pouvoir, qui tient une certaine économie. Voilà, alors ça mène à des choses bizarres, c'est que le prix des vêtements noirs a complètement explosé, ce qui évidemment pose des soucis aux communautés les plus pauvres et les plus faibles, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas le bon vêtement noir, vous risquez de vous faire tabasser, donc ça craint un petit peu hein, quand même. Hein. Vous risquez la prison hein, avec lèse-majesté, on parle de plusieurs décennies. Les derniers procès en date ont amené des condamnations de 30 ans quand même, hein, donc... C'est pas juste une petite répression. Hein. Alors, la question est de savoir maintenant qui va prendre la place. Alors, il y a un prince héritier, il a 64 ans. Alors, pour tout dire, il est plutôt connu pour ses aventures sexuelles, ses délires en boîte de nuit, et pas trop pour, en fait, son caractère de diplomate, avec un savoir-faire pouvant diriger le peuple en Thaïlande. Non, il est plutôt connu comme étant violent, imprévisible, pas quelqu'un de très très sérieux. Il avait un chien qui l'avait appelé le maréchal Fufu, et il lui avait donné un rang dans l'armée de l'air quand même à ce chien. Donc le Parlement a pris le Parlement. Ça semble toujours être un mot bizarre sous une junte, hein, comme ouais. C'est réuni la semaine dernière, a pris note du nouveau roi, mais alors il faut savoir que il y a eu une annonce qui a été faite, c'est que le roi aurait besoin de se préparer avant de monter sur le trône. Bon, ça fait 40 ans qu'il sait qu'il va monter sur le trône, puisque son père l'avait désigné en 1972, hein, donc bon, il a eu le temps de se préparer. A priori, il a préféré faire la fête, et puis savoir est-ce qu'il est soutenu par les élites, justement parce qu'il a une mauvaise réputation et qu'il n'a pas l'aura de son père, hein, tout simplement. Le roi défunt semble être celui qui pouvait unir le peuple. Ça paraît bizarre parce qu'on est dans une situation très particulière en Thaïlande, mais c'était un petit peu cette image-là. Avec le fils, on en est vraiment très très loin de cette unité. Il y a le régime militaire qui essaye là-dessus aussi de se positionner. Donc il y a une division hein, qui se fait quand même aussi au niveau des élites et des politiques, on ne sait pas bien comment tout ça va pouvoir se passer. Reste que voilà, là, cette période de deuil, c'est un petit peu risque un petit peu de cacher les divisions au sein du pays. On va voir comment ça se passe dans les jours qui viennent. Parce que c'est très impressionnant, les images. On se croirait presque en Corée du Nord. Je sais pas si vous avez regardé de votre côté. Mais on voit des gens en noir, en pleurs. Voilà, il y a même des gens, j'ai lu ça sur Le Monde, qui se font tatouer le visage du défunt. Parce qu'il paraît que les tatouages sont sacrés dans ces cas-là et que ça porte tout un tas de chance. Voilà, c'était le petit mot sur la Thaïlande. Avant de passer, maintenant, on passe au Moyen-Orient, c'est ça ?
Oui, c'est ça, avec trois petites infos. La première, c'est peut-être une très bonne nouvelle, puisqu'on va aller au Liban et que peut-être il y aura un président au Liban. Alors, il faut savoir qu'il n'y a plus de président depuis 2014. C'est un peu l'équivalent belge du Moyen-Orient, mais avec un côté pas drôle, parce que le Liban, c'est quand même beaucoup plus tendu que la Belgique. Qui était resté très longtemps sans.
Et puis il y a plus de communautés, et c'est aussi pour ça que c'est un peu plus le bazar.
Voilà, donc on rappelle quand même au Liban, le président est élu par le Parlement, qui compte 128 délégués, qui sont répartis à parts égales entre chrétiens et musulmans, et même au sein des musulmans, il y a une répartition entre chiites et sunnites. C'est très très compliqué, il y a plus de 20 communautés religieuses au Liban, tout le monde se définit par sa religion, hein, ce qui est un énorme problème pour celles et ceux qui n'auraient pas de religion, et qui du coup sont mis au banc de la société, parce que sur la carte d'identité il y a la religion. Bon, bref, il semble qu'il y ait une porte de sortie. Enfin, ils ont trouvé un terrain d'accord. Et qui c'est qui va être élu ? C'est le général Aoun. Alors on le dit plus général hein, maintenant, parce qu'il est plus général, mais c'est Michel Aoun. Alors Michel Aoun, c'est un chrétien hein, qui malheureusement a fait parler de lui pendant la guerre civile, et pas du bon... Enfin, alors pour le coup, ils se battaient tous entre eux. Donc, mais bon, il était quand même... il avait plein de sang sur les mains, le général Aoun. Et aux dernières élections, hein, le mouvement qu'il avait fondé, il était soutenu par le Hezbollah. Les chiites de Hezbollah. Et donc c'est les alliances de politique politicienne au Liban, c'est pas toujours compréhensible hein, que les chiites s'allient aux chrétiens qui soutiennent le général Aoun, mais bon, c'est comme ça, c'est la politique au Liban, c'est compliqué. Mais donc ça suffit pas jusqu'à maintenant. Alors il y a eu plusieurs passages hein, devant le Parlement, ça suffit pas pour d'avoir la majorité avec les chiites du Hezbollah et les partisans des forces libanaises, hein, les gens qui soutiennent Michel Aoun. Et là, tac, renversement de situation. Il y a Saad Hariri qui a parlé. Donc Saad Hariri, un sunnite. C'est la famille Hariri, hein, donc certains sont morts sous des attentats ou des choses comme ça. Grosse famille de millionnaires, libanais, qui sont pas dans le même camp. Et il y a eu un discours officiel de Saad Hariri qui dit qu'il soutiendrait officiellement Michel Aoun. Donc je vais lire même la phrase, il a dit « J'annonce aujourd'hui la décision de soutenir la candidature du général Michel Aoun à la présidence de la République. C'est une décision qui découle de la nécessité de protéger le Liban, son système politique et l'État. » Donc voilà, il est allé jusqu'à expliquer la problématique. On rappelle que grosso modo, la situation est compliquée au Liban très naturellement par un système qui est quand même pourri. Ce système communautariste imposé lors de la fin du mandat français au Liban crée une situation qui est ingérable. Hein, on peut pas gouverner avec des partis communautaires et des communautés. Ça doit être des idées politiques qui doivent fonder les partis. Du coup, c'est très artificiel, la vie politique libanaise. Et le système fonctionne pas. Sauf que ceux qui sont au pouvoir, ils veulent que le système perdure parce qu'ils sont au pouvoir. Donc là, l'alliance du dernier moment, voilà, c'est finalement on se met tous ensemble pour sauvegarder le système. Et finalement, quelque part, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à faire des Libanais qui veulent juste sauver le système, parce que là, le système était au bord de s'écrouler, et peut-être de faire naître une vraie démocratie au Liban, une démocratie moins artificielle. Bon, bah, c'est pas le cas, ça sera ça, mais c'est quand même quelque part une bonne nouvelle qu'il y a un président, même si voilà, on pourrait rêver d'un système un peu plus réglo, un peu plus démocratique. Voilà pour le Liban. Alors, on rappelle que dans la grosse problématique au Liban, c'est la guerre en Syrie qui a mis, on va dire, le feu un peu plus dans les communautés. On se rappelle que les chiites du Hezbollah soutiennent le dictateur Bachar el-Assad, alors que les sunnites, pas trop. On peut le dire. Et les chrétiens, un peu, si, aussi. C'est compliqué quand même, tout ça. Alors, on va aller juste à côté, donc justement en Syrie, puisque on a tous entendu parler, là aujourd'hui, il y a une trêve, les Russes et leurs alliés de l'armée de Bachar el-Assad ont arrêté globalement, on va dire globalement, de bombarder Alep pour laisser un petit peu des corridors humanitaires ou des couloirs humanitaires, vous appelez ça comme vous voulez, pour essayer d'aider un petit peu les habitants d'Alep qui sont quand même retranchés dans cette ville depuis pas mal de temps. Alors ça, c'est la situation aujourd'hui. Ce que tous les médias oublient de parler, c'est de ce que fait la Turquie. Parce qu'aujourd'hui, la Turquie continue de bombarder. Et la Turquie bombarde Alep, mais pas les mêmes quartiers. La Turquie bombarde le nord d'Alep. Et dans le nord d'Alep, il y a qui ? Il y a les Kurdes. Hein, il y a les Kurdes du PYD, le parti kurde syrien, qui est quand même un des partis qui combat le plus Daesh dans cette région, et qui est donc aujourd'hui attaqué, comme régulièrement, par la Turquie, et tout le monde ferme sa gueule. C'est donc assez incroyable ce qui se passe. Hein, non seulement ils ne respectent pas la trêve lancée par les Russes et les Américains, et Bachar el-Assad, mais en plus, ils bombardent en toute humanité, en toute immunité. Ce qui est triste, c'est que jusqu'à maintenant, la Turquie était juste soutenue par les Occidentaux. Et là, ils se sont rapprochés de Moscou. Du coup, bah, ils peuvent bombarder sans aucune critique, alors qu'ils sont en train de massacrer les Kurdes sous prétexte de combattre Daesh. Et bizarrement, c'est les Kurdes qui étaient quand même les premiers combattants de Daesh. Et puis pour terminer, un petit mot sur la Cisjordanie et la situation israélo-palestinienne, puisque tout à l'heure, un Palestinien jetait des pierres, et bon, bah, les militaires ont riposté, ils l'ont tué hein, directement. Le communiqué de l'armée israélienne fait état d'un terroriste armé de cailloux. Bon, bah, le pauvre, il avait des cailloux, les autres, ils avaient des fusils mitrailleurs. Il est mort. Donc voilà, c'est la résistance palestinienne qui continue d'être massacrée, qui combat comme elle peut et qui est massacrée par l'armée israélienne. L'armée illégale, hein, puisque c'était en Cisjordanie, donc un endroit où l'armée israélienne n'avait pas sa place, bien évidemment. Tu nous parles des profiteurs un petit peu ?
Oui, nous allons changer complètement de sujet puisque nous allons parler de cdiscount.com. Je vous rappelle que c'est une filiale du groupe Casino. Alors ce 18 octobre, cdiscount.com célébrait ses 18 ans. Et ce 19 octobre 2016, la CNIL publiait une petite information, puisque la CNIL a contrôlé cdiscount.com et identifié pas moins de 10 manquements. Ce qui fait que cdiscount.com écope d'un avertissement public et d'une mise en demeure. Alors tout ça est parti de tout un tas de plaintes, 80 depuis 2015 contre cdiscount.com. La CNIL a donc fait ses petits contrôles entre février et mars 2016 et comme je vous le disais, il y a eu de multiples manquements, 10, qui ont conduit la CNIL à engager deux procédures, une procédure de sanction avec la désignation d'un rapporteur et une procédure de mise en demeure. La procédure de sanction, c'est donc l'avertissement public. Alors, dans les contrôles, on a pu noter des manquements quand même qui sont très intéressants. Par exemple, la conservation en base de données de plusieurs millions de comptes d'anciens clients sans aucune suppression ni limitation de durée. La conservation de 4179 données bancaires associées pour certaines à des cryptogrammes visuels de manière non sécurisée. Des tas de petites choses hein, comme ça. Alors, la CNIL nous informe que cdiscount.com a pris des mesures correctives, mais que la sanction publique est néanmoins justifiée en raison de la nature et du nombre de données en cause. C'est-à-dire que même la CNIL n'en est pas revenue. Hein, c'est pour ça. Alors, les contrôles ont révélé tout un tas de manquements. La mise en œuvre d'un traitement de lutte contre la fraude à la carte bancaire sans autorisation de la CNIL, ce qui est quand même assez drôle. L'enregistrement des données bancaires de clients lors d'appels reçus par la société. L'absence d'informations des utilisateurs du site quant au traitement de leurs données. L'absence de consentement des personnes à la conservation de leurs données bancaires. Et l'envoi de prospection commerciale électronique. Le dépôt de cookies sans finalité déterminée, c'est-à-dire la CNIL a repéré. En fait, je ne sais pas combien de cookies quand vous allez sur cdiscount.com, mais il y en a en plus. La société, a priori, n'a même pas été capable de dire exactement à quoi ça servait. C'est-à-dire que les cookies, vous savez, c'est des sociétés extérieures qui vont gérer après ces données. Bah, il y en a, en fait, cdiscount, elle ne sait pas. Hein, elle a juste un petit peu profité de la chose. La CNIL reproche aussi un défaut de politique de mot de passe suffisamment costaud. Et puis, moi, j'ai noté ce petit problème, ce petit manquement. La CNIL a noté la présence de commentaires non pertinents dans sa base de données, tels que client a une maladie cardiaque, client raciste, client chiant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On le trouve hein, de plus en plus, hein, soulevé par la CNIL, ce petit problème de désignation du client par tout un tas d'adjectifs et de vocabulaire. La CNIL a donc adressé une mise en demeure de se conformer à la loi. Cdiscount.com a un délai de 3 mois renouvelable une fois. C'est encore une fois une affaire importante pour la CNIL, parce que la CNIL s'intéresse de plus en plus à la sécurité des consommateurs sur les sites de vente en ligne. Et là, Cdiscount a multiplié les manquements. Ça, c'est la terminologie de la CNIL. C'est une négligence bien révélée, hein, il faut le dire quand même. Et puis, ça montre aussi que Cdiscount utilise aussi nos données, mais comme d'autres sites, hein, à des fins purement monétaires. C'est-à-dire que on vend nos informations à d'autres gens qui en font je ne sais quoi. Enfin, la CNIL rappelle que cette mise en demeure n'est pas une sanction, qu'il n'y aura pas de suite donnée à cette procédure si la société se conforme à la loi dans le délai imparti. Donc finalement, il n'y a pas non plus une chose de grave, hein, pour l'entreprise, à part des médias qui, comme nous, faisons savoir que Cdiscount.com, c'est un site pourri, en fait, hein, il faut le dire, même s'ils annoncent avoir changé un petit peu les choses.
Alors on va parler un petit peu de religion avec trois petites infos. La première, elle concerne l'UNESCO, on avait déjà parlé il y a quelques semaines. Donc une nouvelle résolution sur le statut de Jérusalem-Est, et en particulier la fameuse esplanade des mosquées, le mont du Temple, a été adoptée il y a deux jours. Et ça a à nouveau suscité une petite polémique, notamment en Israël, qui n'accepte pas ce texte. Donc ce texte qui a été approuvé par une majorité, alors ça a été voté en commission, hein, donc les chiffres doivent être 24 voix pour, 6 contre et 28 abstentions, donc validé par le conseil exécutif ensuite sans nouveau vote. Donc la résolution dit, hein, qu'Israël est une puissance occupante de Jérusalem-Est et demande à l'État hébreu d'arrêter les abus, notamment d'empêcher les musulmans d'aller sur l'esplanade des mosquées et toutes les autres brimades qu'il peut y avoir. Alors, c'est la deuxième fois, hein, que cette motion, cette résolution est discutée à l'UNESCO. Elle avait été votée une première fois il y a quelques temps. La France avait voté pour, Hollande avait réagi, avait dit sa désapprobation. Donc depuis, elle a été réécrite, la motion, pour atténuer un petit peu les effets. Alors aujourd'hui, la France s'est abstenue. Quel courage, n'est-ce pas, hein? Quel courage. Sur la situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, elle trouve qu'Israël a le droit d'empêcher tout à chacun d'aller dans n'importe quel endroit de Jérusalem-Est, ou de Jérusalem tout court d'ailleurs, ou quoi? Bon, on ne sait pas bien ce que pense l'État français, enfin Hollande, et la diplomatie française là-dessus. Ce qu'on note, c'est un manque de courage certain, un moment d'affirmer les choses. On ne voit pas pour l'instant de pays porteur d'une idée simple, parce qu'il n'y a pas de solution pour Jérusalem. C'est un capharnaüm, un truc horrible, immonde, irrésoluble et insolvable. Si, la solution, c'est de transformer ça en ville internationale, ce serait la première, de dire voilà, bah, cette ville, elle est ni à Israël, ni à la Palestine, ni à personne, c'est une ville neutre, elle est gérée avec un maire et une administration locale, et on arrête de se poser des questions à qui appartient Israël, à qui appartient Jérusalem, puisque voilà, c'est le berceau des trois religions monothéistes qui quand même nous pourrissent la vie, on peut le dire, et qui pourrissent la vie des habitants là-bas. Donc ce serait bien qu'à un moment, on aille plus loin sur le statut de Jérusalem-Est et qu'on sorte de ces guerre de territoire et de position, aussi bien d'ailleurs du côté palestinien que du côté israélien. Les chrétiens, eux, étant suffisamment faibles pour fermer leur gueule, hein, parce que sinon ils s'exprimeraient largement. D'ailleurs, en général, ils soutiennent plutôt les Palestiniens. Donc voilà cette résolution qui finalement fait pas vraiment avancer les choses non plus, puisque c'est une résolution en demi-teinte. Alors toujours sur la religion, le 16 octobre dernier, donc il y a 4 jours, le pape François a canonisé soi-disant cet nouveau saint, dont deux Français, il y a Élisabeth de la Trinité et Salomon Leclerc. Alors Salomon Leclerc, si vous ne savez pas, c'est un Français qui est né en 1745, si je ne me trompe pas, et qui est mort sous les coups de la Révolution française, hein, de la période de la Terreur d'ailleurs, hein, sous Danton, parce qu'il était prêtre et qu'il a refusé le concordat, enfin ce que proposaient les révolutionnaires pour l'Église catholique, grosso modo les transformer en fonctionnaires. Donc il a refusé, et ceux qui ont refusé, ils ont été tués en général à l'arme blanche, de manière assez horrible, mais c'est l'époque qui voulait ça. Alors, on canonise parce qu'il a été tué par des révolutionnaires. C'est un prêtre contre-révolutionnaire, hein, qui défend la monarchie, qui défend le pouvoir absolu de l'Église contre les révolutionnaires. Alors, même si les révolutionnaires l'ont tué et ont massacré pas mal de ces gens-là, ils ont massacré leurs ennemis, hein, qui, donc là, on peut le dire, hein, les révolutionnaires ont tué 188 prêtres. Enfin, combien de prêtres avaient participé aux différents gouvernements, à combien de prêtres avaient tué des femmes considérées comme des sorcières? Enfin, je vous en passe. C'est largement plus que n'importe quelle action des révolutionnaires durant toute la Révolution française, bien évidemment. Et on canonise pas, dans la République, ceux qui sont battus, les femmes notamment, qui ont été tuées, assassinées par l'Église catholique, ou par les protestants d'ailleurs, qui n'étaient pas beaucoup plus sympathiques envers les gens qui étaient pas de la même religion, voire pas religieux. Mais face à ça, normalement, le gouvernement français est censé envoyer un responsable. Alors, normalement, ça aurait dû être Bernard Cazeneuve, parce qu'il est ministre des cultes, le pauvre. Sauf que Cazeneuve, il est pas très croyant, quoi. Donc là, il a dit, non, fallait pas abuser, qu'il allait pas y aller, il allait pas aller à la sanctification d'un prêtre contre-révolutionnaire, anti-révolutionnaire, antidémocratique, antidémocrate, anti-république, c'était pas possible pour lui. Alors qu'il est déjà allé à la canonisation de Français, mais là, non, il a dit, c'est pas possible. Alors ça a été révélé, hein, par le canon enchaîné d'hier. On sait que son collègue ministère des Affaires étrangères a eu moins de courage, mais il n'est pas allé non plus. Il a botté en touche de manière un peu moins courageuse que Monsieur Cazeneuve. Donc voilà, bon, c'est toujours un peu bizarre que la République soit invitée à ce genre de choses religieuses, alors que la République n'est pas censée s'occuper de religion, surtout quand les religieux ont tué les républicains qui se battaient pour changer le système. L'Église à l'époque était bien sûr royaliste, elle est restée longtemps d'ailleurs, voilà, elle est peut-être encore en partie d'ailleurs, hein, puisque le roi était d'essence divine quasiment, voire pas quasiment. Et puis pour terminer sur une info sur les religions, le ridicule ne tue point, on va parler d'Emmanuel Macron, qui a fait tout un discours et qui a dit qu'aucune religion n'était un problème. Alors bien évidemment, son but, c'était de parler du vivre ensemble, hein, c'était pas une polémique, sauf que justement, après l'affaire Cazeneuve, il fallait quand même rappeler que les religions monothéistes, les trois que l'on connaît, sont pas compatibles avec la démocratie. C'est rappelé assez régulièrement par des religieux eux-mêmes. Régulièrement, il y a des imams, il y a des rabbins, il y a des prêtres qui rappellent que leurs religions ne sont pas compatibles pour un principe simple, pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, la démocratie, et donc la République, qui est issue de ce principe démocratique, qu'on soit d'ailleurs anarchiste, c'est-à-dire pour une démocratie directe ou pas, c'est le principe, c'est que tous les textes qui régissent notre vie sont décidés par les gens qui votent. Alors ça peut être tout le monde, ça peut pas être tout le monde suivant les systèmes pourris, plus ou moins pourris, mais ça c'est le principe démocratique. Or, c'est un principe contre lequel les religions se sont toujours battues, puisqu'elles refusent que leur texte fondateur soit modifiable par le peuple, par n'importe qui. Il doit pas être modifiable, ces textes. Donc c'est pour ça, c'est sur ce principe-là que les religions s'opposent en général à la démocratie. Alors bien évidemment, tous les croyants sont pas débiles et ça applique pas les trucs à la lettre, hein, mais heureusement, sinon on serait quand même en guerre en permanence contre les gens qui croient. Mais c'est intrinsèque aux religions de refuser le principe de la démocratie, c'est-à-dire que les lois qu'on va subir, les règles qui régissent notre société, nous les votons, nous les décisons, alors décidons. Alors la démocratie représentative, le système est suffisamment pourri pour que ça soit pas nous qui décidons directement, mais le principe est quand même le même au départ, en tout cas sur le papier. Donc voilà, et Emmanuel Macron soit fait semblant, soit s'exprime mal, soit manque un petit peu de culture démocratique. Bon, on sait de toute façon qu'il n'est pas un grand gauchiste non plus, hein, et qu'il n'a pas l'air d'être très pro-démocratie, même si bien évidemment il n'est pas du tout de l'autre côté, mais on l'a vu rencontrer des prêtres qu'on classerait plutôt du côté de l'extrême droite religieuse. Donc on n'est pas surpris non plus de son discours pro-religion, même si là c'était plutôt dans le sens du vivre ensemble.
Alors mardi vers 22h, une alerte enlèvement a été lancée pour retrouver un bébé de 4 mois enlevé par son père. Alors le bébé va bien, hein, le père s'est finalement rendu mercredi dans la matinée, donc tout se termine bien.
Sauf que
l'alerte enlèvement a eu un texte un petit peu particulier. Alors il n'y a pas que moi que ça fait réagir, ça fait plutôt du bien de voir que certaines choses choquent, dérangent, mettent en colère, puisque l'alerte, le texte de l'alerte nous indiquait que le père était un individu de race noire. Alors, déjà, alors évidemment, ça a fait largement réagir, même les médias, hein, certains médias avaient changé. La formulation.
Ouais, on rappelle qu'il n'y a pas de race dans l'espèce humaine, déjà, et une race noire, on ne connaissait pas non plus.
Alors, je reste sans voix, excusez-moi, oui, je reste sans voix, que ce message ait pu être diffusé, passer, c'est assez incroyable. Alors, une heure et demie plus tard, hop, nouvelle petite phrase, là on parle de couleur noire, le porte-parole du ministère s'excuse platement sur les réseaux sociaux, en parlant de termes inappropriés, regrettables. Le problème, c'est qu'évidemment, le premier message
est passé,
était pollué par cet individu de race noire. Alors, qui fait ça? Qui a écrit ce truc? Alors, on nous a expliqué que c'est donc les services de police et de justice qui sont chargés de la rédaction du texte, que, évidemment, le but de l'alerte enlèvement, c'est d'aller très vite, donc tout ça a été fait d'une manière urgente, j'aurais bien le croire, et les éléments factuels sont donc rédigés par un agent de police ou un gendarme, et la validation du texte revient au parquet qui se charge ensuite de sa mise en forme et de l'envoi de l'alerte. Alors moi, je pose juste une question très très simple. Ils sont où les racistes qui ont écrit ce texte, dans la police et au parquet.
Voilà, c'est ça, parce que c'est les deux, forcément. Un policier a écrit le truc et un juge a laissé passer
ce
propos raciste.
Ouais. Voilà, en l'occurrence, il s'agit du parquet de Grenoble. Donc voilà, moi, c'est une question qui est simple. Je demande où sont les racistes.
Alors, logiquement, ils devraient être poursuivis pour les propos racistes. On va voir si ça ira jusque-là, mais a priori, c'est pas sûr, quand même.
Non, c'est pas... alors là, je vais te dire, on n'est pas nombreux à se poser la question, parce que si ça a choqué beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, je trouve que les médias sont plus là à relever finalement les faits qu'à se poser ces vraies questions. Il y a donc des racistes dans la police
et dans la justice. Oh non, allez. Allons. Alors, on va aller à Trappes maintenant. Alors, Trappes, c'est dans le 78, ne me demandez pas où c'est, tout sauf l'envie d'aller à Trappes, surtout ce qui est en train de se préparer. Alors, ce qui se prépare, c'est que Laurent Deutsch, a été invité pour rencontrer des élèves d'un lycée de Trappes le 4 novembre pour leur parler d'histoire, puisque Laurent Deutsch est un grand spécialiste de l'histoire. Et oui, il écrit des bouquins, tout ça, sur l'histoire, machin.
Il met même des petites lunettes pour avoir l'air plus sérieux, je trouve.
Ouais. Mais bon, malheureusement, pour lui... Et heureusement pour les gamins, il ne rencontrera pas les enfants, les écoliers, lors de cette rencontre le 4 novembre, puisque des profs ont réagi et se sont mobilisés. Alors on a lu l'info sur un site de profs d'Histoire Géo qui nous explique, je vais les citer, ils disent « Il y a quelques semaines, nous apprenions la venue à Trappes de Laurent Deutsch le 4 novembre 2016. Il est prévu que M. Deutsch se produise dans la salle de spectacle de la Meurice pour parler d'Histoire de France aux élèves de 4e des 3 collèges de Trappes. Cet événement est une initiative du Salon Histoire de Lire de Versailles, appuyé par M. Bédier, qui est le président donc, du Conseil départemental des Yvelines. Cette intervention de M. Deutsch nous a d'abord été présentée comme une simple proposition, que nous avons décliné. Les pressions exercées conjointement par les organisations et par l'inspection pédagogique régionale d'histoire-géographie sur les chefs d'établissement démontrent clairement qu'elle est en réalité obligatoire. Et du coup, ça a mobilisé ces profs et d'autres. Et ils sont opposés et ça a réussi, leur position a marché. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Alors on rappelle pourquoi ils sont opposés à ça. Le message véhiculé d'ailleurs par le président du conseil départemental des Yvelines, par ce salon-là, Histoire de lire de Versailles, et par Laurent Deutsch, c'est de présenter l'histoire de France d'une manière un petit peu différente pour leur faire en fait aimer l'histoire de France et de la République. C'est la fameuse réécriture du roman national que veut faire toute la droite, en présentant pas l'histoire sous une suite d'événements qu'on analyse et qu'on essaie de comprendre, mais en disant « ça c'est arrivé, c'était bien, c'était beau, ça c'est arrivé, c'était bien, c'était beau ». C'est ça l'histoire du roman national. Et c'est contre ça que les profs se sont opposés, en expliquant qu'effectivement, eux, ils voulaient pas parler de l'histoire comme ça. Ils n'avaient pas pour vocation de faire aimer la France et la République, c'est pas leur truc. Eux, ce qu'ils veulent, ils expliquent, c'est de montrer les faits et d'en discuter, de les expliquer, de les critiquer, d'expliquer pourquoi il y a eu tel événement à tel moment. Et ils sont dans une analyse rationnelle, scientifique de l'histoire et pas dans une analyse politique et émotionnelle comme le fait Laurent Deutsch. Surtout qu'on rappellera que Laurent Deutsch, qui leur reproche, alors je vais lire la réponse de Laurent Deutsch avant de parler de ça d'ailleurs. Il est interviewé par le Figaro et il a répondu à un moment, ces deux enseignants dont je ne remets pas leurs compétences en cause sont des militants du Front de Gauche. Bon, ça tombe bien, lui il est militant royaliste. Hein. Leur démarche est, me semble-t-il, idéologique. Je souhaite simplement rencontrer les élèves pour faire partager ma passion de l'histoire. Eux, ils se servent de l'histoire pour faire passer des idées politiques. Et ben, bizarrement, ils ont beau être du Front de Gauche, c'est pas ce qu'ils font, vraisemblablement dans leur cours, puisqu'ils font une analyse de l'histoire. Alors que lui est un vrai militant politique, on rappelle qu'il est royaliste, orléaniste, hein, pour être précis, et il défend la famille d'Orléans, qui devrait être sur le trône de la France, à la place de la démocratie, il rêve d'une monarchie. C'est donc un réactionnaire qui réécrit l'histoire, un vrai révisionniste. Hein, ses bouquins ont été analysés dans tous les sens par des vrais historiens. Lui, il est tout sauf historien. Il est avant tout militant politique d'extrême droite, royaliste, et c'est de ça dont ne voulaient pas les enseignants qui ont eu raison de s'opposer et qui ont gagné, et on les félicite, on est bien content pour eux et surtout pour les bambins qui n'ont pas eu ce discours réactionnaire et révisionniste de l'histoire de France.
Alors nous allons ouvrir une page pour nos amis les bêtes, nous allons parler chasse, safari, corrida et même TripAdvisor, oui. On va en venir à TripAdvisor. Alors je me suis bien demandé par quoi j'allais commencer cette petite section Nos Amis les Bêtes, mais je crois que nous allons commencer quand même par les safaris. Mardi, le site holydogtimes.com nous a fait la joie de diffuser une belle vidéo avec Pascal Olmeta dedans, l'ancien joueur de football, tout à fait. Et donc c'est une vidéo qui date de 2012, ça se passe au Zimbabwe, et Monsieur Olmeta est donc parti chasser l'éléphant.
On a le droit de chasser l'éléphant ?
Eh ben alors là-bas, écoute, il était accompagné d'un guide de grande chasse, n'est-ce pas, qui s'était payé. Donc on le voit dans la vidéo, franchement un petit peu très amusé, hein, c'est cool, il s'éclate, il va tuer de la bébête. Il va achever l'éléphant avec une balle dans la tête. Hein. Bon, on peut pas dire qu'il prenne beaucoup de risques non plus. Hein, voilà. Mais par contre, c'est très viril. Hein. Après, les hommes vont s'enlacer, s'empoigner. Hein. On se tape sur le bide. On est content. On a tué l'animal. Hein. La vidéo se termine par un ancien joueur de football tout fier de lui, tout sourire à côté du cadavre de l'éléphant. C'est absolument charmant. Et alors, ça renvoie à quelqu'un dont on n'avait pas parlé début octobre, qui s'était fait aussi remarquer ça. Tu l'aimes beaucoup, lui.
Ah, je l'adore. Je suis très, très fan de
monsieur Luc Alphand, ancien skieur professionnel de haut niveau, comme on dit, qui depuis s'est reconverti au rallye. Ouais. Tout ce que t'aimes.
Hein. Ah ouais, c'est exactement ça.
Le pire, c'est du rallye raid. C'est encore pire.
Ouais, c'est des trucs qui détruisent tout partout.
Et alors, début octobre, on a eu la joie de découvrir Luc. Tout fier d'avoir abattu un ours, d'avoir dézingué un ours en Russie. En fait, c'est la société de chasse qui avait posté ses photos sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Bon, depuis tout ça a disparu. Luc Alphand est connu comme Pascal Olmeta pour ses goûts pour la chasse. Voilà, c'est des hommes virils qui se payent un petit coup de safari pour aller tuer de la grosse bébête. Hein. Évidemment, tous ces gens sont bien encadrés. Alors, ça m'a rappelé un truc dont j'avais lu, ça date du mois de septembre. C'est une info sur la chasse. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 1986, il est très clairement écrit dans notre loi que l'utilisation d'un véhicule en tant que moyen favorisant la capture, que ce soit dans une action de chasse, de recherche ou de poursuite d'un gibier, est interdite.
Ah oui, on n'a pas le droit de courir, au lieu de courir, d'avoir un 4x4 pour rattraper un animal.
Oui, moi, ma réaction, ça a été plutôt, ah bon, il a fallu préciser qu'il fallait pas chasser avec un 4x4 ou une bagnole. Mais voilà, deux hommes se sont retrouvés devant la justice. Ils avaient été pris en flagrant de délit de chasse au sanglier en voiture à Saint-Hilaire-de-Gondilly. Le 19 novembre 2015, le tribunal de Bourges les avait condamnés à 380 € d'amende pour le conducteur et à 500 € d'amende pour le passager tireur. Les deux chasseurs avaient perdu leur permis de chasser pour 2 ans. Ils avaient tous les deux la possibilité de repasser l'examen, sauf que le passager tireur ne veut pas se laisser faire. Il avait fait appel de la décision. Il a comparu le 21 septembre dernier devant la cour d'appel de Bourges, qui a confirmé le jugement initial et même allé plus loin, puisque la cour d'appel a ajouté une inscription du tireur au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Bon, il a toujours une voiture, hein, par contre. Voilà, puis il y a toujours les frais hein, qui s'ajoutent. Et alors, le truc, c'est que j'ai donc appris que ce fameux passager tireur a décidé de se pourvoir en cassation. Il ne lâche pas l'affaire, il a le droit de chasser avec sa bagnole. Hein. Tout ce que t'aimes aussi, la chasse et la bagnole. Alors, il faut savoir que il y a des accidents tout le temps. Hein, nous en parlions
de chasse, ouais.
Souvent.
Enfin, des accidents
de bagnole aussi, hein, d'ailleurs, voilà. Mais de chasse en l'occurrence.
Il y a même des meurtres maquillés en accident de chasse.
Et alors, j'ai lu ça sur le site du Courrier Picard. Oui.
Oui, un grand moment alors le Courrier Picard.
Bah oui, mais en fait, en même temps, pour les infos sur la chasse, si tu as la presse locale, c'est quand même la mieux informée. Hein.
C'est
donc,
vrai.
C'est paru le 17 octobre. Ce dimanche 16 octobre, dans la commune de Gamache, dans l'ouest de la Somme, vers 15h, une dispute éclate entre deux chasseurs. Et l'un des deux tire sur le second. Bon, je vous rassure tout de suite, le blessé va bien, ses jours n'ont pas du tout été en danger, c'était juste une égratignure, on va appeler ça comme ça. Le tireur, lui, a été placé en garde à vue, hein, ni alcool, ni drogue, c'est déjà ça de pris. A priori, l'homme aurait agi avec une impulsion. Oui, là, comme ça, d'un coup, j'ai un flingue dans la main, j'ai une petite impulsion, et je tire sur le voisin en face,
copain.
Avec qui je suis pas content, quoi, j'ai une embrouille. Bon, il encourt quand même une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Alors, vous allez me dire, c'est un accident, il y a un incident parmi d'autres. Oui, sauf que ce dimanche 16 octobre, c'était la journée de un dimanche à la chasse. Une grande journée opération séduction des chasseurs pour revaloriser la chasse.
Ah, bah, ça fait un bon exemple, ça, de
voilà.
Montrer ça.
Voilà. Donc, ils étaient quand même un petit peu gênés aux entournures, mais alors, François Crépin, le directeur de la fédération du coin, dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Ça aurait pu arriver un autre jour, hein, donc il ne faut pas
oui,
tout lier.
Oui, c'est son play-ball, ça c'est
bon,
sûr.
J'y vois un peu peut-être que du mal, c'est ça qu'il veut me dire. Hein. Et surtout, il ajoute, il y a des bagarres à la sortie des balles aussi. Oh, bah oui, mais c'est vrai que, bon, ça c'est une drôle de comparaison quand même.
Sauf qu'en général, au bal, on n'y va pas toujours avec un fusil.
Alors, fut une époque où certains et certaines pourraient te contredire parce que
oui,
l'arme blanche était fortement utilisée. Mais par contre, il nous explique que c'est un sport très sûr. Bon, déjà, nous, sur le mot sport, on tique un peu. Avec bien moins d'accidents qu'au ski, par exemple. Par contre, là, voir deux skieurs s'entretuer à coups de ski, tu vois, là, quand même, c'est pas tous les jours à la campagne, hein, et à la montagne, excusez-moi. Non, mais franchement, bon, ils ont toujours des arguments, ces chasseurs. Bon, il faut savoir que là, ici, hein, en Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont vachement aimés par Monsieur Wauquiez.
Ah bah oui, Wauquiez leur donne de l'argent.
Il faut se rappeler qu'ils sont quand même 120 000. Ah bah ça fait l'électorat, hein, tout ça.
Ouais, 120 000 mecs qui sont armés. Hein. Ça fait
donc, peur. Ensuite, je poursuis avec un procès qui se déroulait depuis la semaine dernière. Enfin, moi j'ai eu les informations sur ce qui s'était passé vendredi. Alors, c'est un procès qui vise 3 anciens cadres, un technicien et 3 stagiaires apprentis de la Fédération des chasseurs de Haute-Saône. Alors, il s'est ouvert jeudi dernier à Vesoul. Alors, les anciens présidents, le directeur et responsable technique sont poursuivis pour avoir ordonné la mise à mort d'animaux sauvages protégés, effectué donc par ces fameux stagiaires apprentis de la fédération. Les stagiaires apprentis ont reconnu les faits. C'est un d'entre eux hein, qui a dénoncé les faits en juillet 2013, après un petit peu toujours du temps, la justice. Donc en fait, ils avaient ordre de détruire les animaux. C'est les termes qui sont employés. Ils étaient payés 384 euros pour ça. Il fallait qu'ils ramènent la queue de ces animaux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aller tuer ces animaux. Alors, il faut savoir que c'était un territoire protégé sur lequel il y avait une réintroduction d'espèces. Pas quelque chose de très important, mais ça avait le mérite d'exister. Et des chasseurs voulaient réintroduire les lapins de Garenne et les faisans. Ils ont donc détruit ce qui pouvait gêner, vous voyez, les prédateurs.
Ah oui, c'est pas bête, hein. C'est pas bête. Ça fait un peu artificiel comme vie, comme nature.
Ouais, voilà. Mais ils ont surtout voulu, eux, en tant que chasseurs, pouvoir mettre le gibier.
Leurs animaux qu'ils aiment bien.
Moi, c'est un peu ce que je lis quand même dans toute cette affaire. Alors, c'est plus une centaine d'animaux appartenant à des espèces protégées qui ont été tués entre octobre 2010 et juillet 2013, selon l'enquête de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc, tout ça, ça se passe, je vous ai pas dit, à Noroy-le-Bourg, hein, au niveau de ce petit territoire pour la prolifération du petit gibier. Il y avait une quinzaine d'associations de protection de la nature qui se sont portées civiles. Alors, les ces prévenus comparaissaient libres. Ils encouraient un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Le procureur a requis des peines avec sursis de plusieurs mois. Pour les trois stagiaires apprentis, le procureur estime qu'ils ont obéi aux ordres. Ils les ont dénoncés, mais ils sont responsables d'avoir obéi à un ordre illégitime. Bah, c'est-à-dire... ce que le procureur se dit, c'est qu'ils n'avaient qu'à pas faire. Hein. Voilà, ils n'avaient qu'à dire non. 9 mois avec sursis à l'encontre de l'ex-directeur de la fédération pour avoir donné l'ordre d'abattre ces espèces protégées. 1000 euros d'amende contre un technicien de la réserve et puis le responsable technique de la réserve. 6 mois de prison avec sursis pour avoir répercuté les ordres avec un zèle certain. Ah ouais, on s'éclate hein, chez les chasseurs. Voilà, c'était aussi ce qui se passe hein, dans, au niveau de la justice avec des chasseurs. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler corrida. Vous avez peut-être entendu parler de cette action de dimanche dernier à Rodillan, dans le Gard. On vous avait parlé hein, de ce qui s'était passé là-bas. En 2011, il y avait des dizaines d'activistes anti-corrida qui s'étaient enchaînés dans les arènes. Ils avaient été roués de coups, mais enfin, ça avait été extrêmement violent. Donc c'est devenu un peu un symbole hein, d'aller là-bas. Et dans cette ville de 2500 habitants, dimanche, était organisée une grande fête taurine. Donc évidemment, les anti-corrida se sont pointés. Ils se sont fait bien accueillir, hein, lacrymo et tout le bazar, comme d'habitude, hein, on dirait. Et ben, que ça soit dans le Gard ou que ça soit en Espagne, la lutte anti-corrida, c'est le même combat. Et ça, c'est une pas très bonne nouvelle puisque la Cour constitutionnelle espagnole a annulé aujourd'hui l'interdiction des corridas en vigueur depuis 4 ans en Catalogne. La Cour avait été saisie par les élus du Parti populaire au pouvoir en Espagne.
La droite en Espagne.
Et oui, la droite est populaire, voilà. La Cour constitutionnelle estime qu'en réglementant ces spectacles, la Catalogne a porté atteinte à la compétence de l'État en matière de préservation du patrimoine culturel commun, dont font partie les corridas de taureaux. Je vous rappelle que depuis 2015, la corrida fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'Espagne. Donc ça pose des soucis aux anti-corrida. Donc ça, évidemment, c'est une décision qui provoque la colère des militants de la cause animale, mais aussi celle des indépendantistes catalans qui estiment que là, eux et elles avaient pris une décision. Ça va amener beaucoup de débats hein, en Catalogne. Et que là, finalement, on est en train de leur retirer leur droit à s'autogérer. La dernière corrida en Catalogne a eu lieu en 2011 à Barcelone. Et à côté de ça, il y a quand même des villes comme Madrid, La Corogne, qui ont supprimé les subventions à la tauromachie, déprogrammé des corridas, parce que ces mairies sont passées à gauche hein, en 2015. Il y a que l'archipel des Canaries qui a interdit les corridas. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et puis rapidement, je vais terminer par une meilleure nouvelle, c'est que TripAdvisor a fait savoir mardi que le site internet cesserait de vendre des billets pour des expériences de tourisme spécifiques dans lesquelles les touristes entrent en contact physique avec des animaux sauvages en captivité ou des espèces en danger, c'est-à-dire que TripAdvisor devrait arrêter de vanter les balades à dos des éléphants, les excursions où on nage avec les dauphins ou toutes les rencontres où on va caresser les tigres et les lions. Bon, alors tout ce qui est ferme pédagogique, club équestre, c'est pas visé du tout par TripAdvisor. Les zoos et les parcs animaliers, les aquariums non plus. Hein. Les tickets pour aller voir des animaux en cage seront toujours recensés.
Tout ce qui est un peu illégal ou à la marge de la légalité.
Ouais, ou tout ce qui amène vraiment de gros dangers sur les animaux. En tout cas, toutes les études le montrent sur, par exemple, toutes les balades à dos d'éléphants dans certains pays, c'est vraiment une catastrophe. Et puis, il y a une étude qui a été menée par l'université d'Oxford qui s'est intéressée justement à la différence entre les commentaires des internautes sur TripAdvisor et la réalité des traitements des animaux dans 24 attractions. Donc ils ont fait toute une étude et il s'avère que 18 des attractions de l'étude maltraitent leurs animaux. Simplement 6 de ces attractions ont un effet positif sur la conservation de ces animaux. Sauf que quand on compare avec les avis des touristes sur TripAdvisor, on s'aperçoit que 84% dans 84% des cas, les pires attractions sont celles qui sont le mieux notées.
Ben oui.
Donc en fait, c'est aussi pour ça que les associations de protection des animaux se battaient contre TripAdvisor. C'était pour que justement ces commentaires cessent, parce que en fait, les touristes ne se rendent pas compte, ne connaissent pas la réalité du traitement des animaux derrière. Ces commentaires, ils sont basés quand même sur l'ignorance, il faut bien le dire. Et puis, c'est tellement mignon d'aller caresser un bébé lion, c'est tellement sympathique, on oublie ce que l'animal peut subir. Bon, c'est un petit peu moitié-moitié, parce que c'est vrai qu'il reste quand même les parcs animaliers et les zoos qui sont dans bien des cas pas mieux lotis, mais c'est quand même une première chose importante, puisque TripAdvisor a quand même un poids assez considérable dans le tourisme.
Oui, c'est un site sur lequel on donne des avis, c'est ça?
Ouais, c'est une vraie usine à perdre son temps, personnellement je trouve, mais c'est extrêmement suivi.
Alors, quelques petites infos environnementales hein, pour terminer ce Canu Info. Alors d'abord, on va commencer par les choses un peu radioactives. Et ça nous vient d'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne a prévu de fermer toutes ses centrales nucléaires d'ici 2022, si tout va bien. Et bah ça y est, le projet de loi qui présente la facture aux exploitants de centrales est rédigé et il est sorti. Donc on l'a appris hier. Donc l'accord financier prévoit que les opérateurs doivent payer un certain nombre de quantités d'euros pour la gestion des déchets. Alors en fait, c'est un énorme compromis hein, qui a été trouvé pour que les déchets ne soient pas gérés que par l'argent du contribuable, mais aussi par les entreprises qui ont créé ces déchets. Mais il fallait pas ponctionner trop pour pas faire courir le risque de faire couler ces entreprises. Alors ça, c'est l'horreur du nucléaire, c'est qu'en fait, les conséquences de l'utilisation des centrales nucléaires vont quand même être payées en grande partie par le contribuable, puisque cette somme qui est de 23,5 milliards d'euros ne va pas couvrir l'intégralité du coût de gestion des déchets nucléaires, mais c'est cette somme qui a pu être négociée, qui sera retirée aux quatre producteurs d'électricité allemands qui ont des centrales nucléaires. Donc c'est plutôt un accord qui va dans le bon sens, même si on rappelle que ces quatre grandes de l'énergie ont déposé des plaintes contre l'État allemand pour essayer d'annuler la loi qui dit que l'Allemagne sort du nucléaire d'ici 2022. Mais bon, il y a peu d'espoir quand même que leurs plaintes aboutissent. Mais voilà, on découvre une fois de plus hein, que certes elles vont payer une partie, mais l'essentiel de la gestion des déchets va rester aux frais du contribuable. Et c'est l'escroquerie du nucléaire, ça coûte tellement cher finalement à gérer sur le long terme, ben que il y a que l'État qui peut payer, et donc les entreprises qui continuent de gagner de l'argent, et ben vont débourser certes une petite somme, mais pas l'intégralité du coût, ce qui est bien évidemment inadmissible puisque c'est elles qui ont créé quand même ces déchets radioactifs. Alors pour la France, la news de la semaine, c'est que tout va mal. L'autorité de sûreté nucléaire a détecté pas mal d'anomalies dans les générateurs de vapeur. Alors, dont une partie avait été cachée hein, par EDF. Générateur de vapeur, c'est l'endroit où c'est l'eau qui passe sous forme de vapeur suite à la chaleur dégagée par la réaction de fission nucléaire dans la centrale, et cette vapeur fait tourner les turbines et permet d'engendrer de l'électricité. Bon, ça c'est simplifié, il y a en fait deux circuits, le circuit primaire qui est radioactif et le circuit secondaire qui est pas radioactif. Ces générateurs de vapeur, c'est donc un élément qui est important et qui doit être fiable, puisque effectivement il y a de la vapeur d'eau ou de l'eau radioactive qui circule dans le circuit primaire des générateurs de vapeur. Et là, ils ont découvert qu'effectivement, les aciers qui avaient servi à fabriquer ces générateurs de vapeur, donc ces grosses cuves en fait, hein, c'est des grosses cuves avec des tuyaux dedans, ne correspondaient pas à ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Notamment, il y avait trop de carbone et ça peut les rendre fragiles. Alors, ça a fait fermer 5 réacteurs supplémentaires. Ça va les faire fermer puisque bon, ça s'arrête pas aussi facilement que ça un réacteur, ils ont laissé un peu de temps à EDF, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un tiers du parc nucléaire français qui est à l'arrêt. Or l'hiver arrive et il risque d'y avoir un problème d'alimentation électrique en France, et ça démontre une fois de plus que le tout nucléaire c'est quelque chose qui fragilise la France hein, des grosses centrales très très grosses, très puissantes, pas un très grand nombre, quand il y en a une, deux, trois, dix qui sont arrêtés, eh ben ça prive d'une énorme quantité d'électricité. Alors que si c'est un panneau solaire ou une éolienne qui est en panne, eh ben ça a beaucoup moins d'impact. Même si c'est 10, 15, 20 éoliennes ou 20 panneaux solaires, ça a beaucoup moins d'impact. Et effectivement, là, ça démontre la fragilité du système français de production d'énergie électrique. Et il nous reste 2 minutes, donc je vais finir très vite avec un petit, parce que hier j'ai lu un article dans Le Figaro, non mais j'ai pas honte, hein, sur l'écologie. Je trouvais ça intéressant de lire cet article sur l'écologie dans Le Figaro, puisque c'est la vision de droite de l'écologie. C'est fait par un économiste qui s'appelle Nicolas Bouzou et qui nous sort tous les poncifs de droite sur l'écologie. Ils sont intéressants parce que ces poncifs commencent à atteindre même des socialistes, mais qui sont libéraux aussi, sur soi-disant que la décroissance est une mauvaise idée, en partant du principe, mais regardez, ce qui justifie la décroissance, c'est la raréfaction des ressources énergétiques, et on trouve de plus en plus de pétrole grâce aux nouvelles formes d'extraction, les pétroles de schiste, les gaz de schiste, etc. C'est un raisonnement qui est bien sûr non scientifique et non rationnel, puisqu'on rappelle que même si on a découvert des nouvelles sources, les sources restent limitées sur la planète, et plus on les consomme, moins il en restera. Ça, on ne parle même pas du CO2, des choses comme ça qui sont émises dans l'air quand on brûle ces sources d'hydrocarbures. Donc il y a un gros discours anti-écolo qui est porté par ces soi-disant nouvelles formes d'écologie libérale. Alors il parle de ça, pour lui c'est la main invisible du marché qui doit tout résoudre, hein, on le sait, ça marche bien, ça n'a jamais marché, hein, pour quelque forme que ce soit, pour le social ou pour l'écologie. Et donc il y a toute une série de poncifs qui nous rappellent qu'effectivement l'écologie a beaucoup imprégné les médias, les consciences ces dernières années, et que la première réaction du monde libéral, ça a été de rejeter entièrement les idées de protection d'environnement, des choses comme ça. Et là, le nouveau discours, et c'est intéressant, du coup, sa chronique à Nicolas Bouzou, c'est qu'il s'approprie la lutte écologique en disant, ben voilà, effectivement, il y a trop de CO2, voilà comment il faut lutter. Et il propose des solutions libérales qui, à moyen ou long terme, détruisent la planète quand même, parce qu'ils sont incapables de se projeter. Hein. Et notamment l'idée de croissance infinie qu'il défend, puisqu'il est contre la décroissance. La croissance infinie, on rappelle, ben ça ne peut pas marcher dans un monde fini tel que l'est la planète Terre. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces écolos de droite, hein, parce que malheureusement, c'est comme ça qu'il faut les appeler. On se quitte, il est 20h à la pendule de la plus rebelle des radios, qui est légèrement en avance. Un tout petit agenda très rapide que je voulais faire, si je retrouve mon agenda, mais je crois que je l'ai perdu en cours de route. Oui, il y a un rassemblement samedi devant l'ancien palais de justice, à Saint-Jean, le palais avec les colonnes romaines, à 15h pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et il y a une rencontre débat à la librairie La Griffe avec Renaud Garcia autour de son livre Le désert de la critique. C'est donc samedi 22 octobre à 15h, librairie Sébastien Griffe. Ah, on me fait signe que l'émission suivante n'est pas prête, c'est pour rediffuser l'émission qui est sur Radio Dio. Delphine, voulais-tu
préciser quelques petites choses? On pourrait juste dire que à iTélé, on en est au 4e jour de grève. Hein, je vous rappelle que l'arrivée de Monsieur Morandini a causé des problèmes. Donc, dans les médias, on se marre un petit peu. C'est pas comme à Radio Canu. Au moins, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de grévistes.
Ah, bah oui.
On vous laisse donc avec Papy. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Bye, bye. Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture.